Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, présenté ce soir par Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir avec à la une un témoignage qui illustre une nouvelle fois une culture d'entreprise patriarcale et misogyne au sein d'Assu 2000. Des propos lourds et déplacés à l'égard des femmes, des week-ends parfois entre alcool et prostitution. Un ancien du groupe raconte après la mise en examen que RTL vous révélait de l'ancien patron Jacques Boutier. Les autres titres de l'actualité maintenant dans votre journal, Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Les débuts très timides du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. À suivre également l'Assemblée Générale du lobby des armes qui suscite la polémique au Texas juste après l'une des pires fusillades des États-Unis. Johnny Depp, Amber Heard, dernier jour du procès qui passionne l'Amérique, la star de Pirates des Caraïbes veut reprendre le cours de sa vie selon son avocate. Et puis à Roland-Garros, Isabelle Langer, l'une des surprises françaises de retour sur les cours. Comment ça se passe pour Diane Paris?
Compliqué, hein. Une petite demi-heure de jeu et 4 jeux à 2 en faveur de Sloane Stephens, l'américaine qui a même une balle de 5-2 dans sa raquette sur le service de Diane Paris.
Les courses à Vincennes, ce soir les pronostics signés Dominique Cordier, le 8, le 14, le 9, le 15, le 5, le 2 et le 10.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL et les conditions drastiques d'accès au Qatar pour le mondial de foot en novembre prochain. 18h20 avec l'invité d'RTL soir, Anna Colin-Lebedev, chercheuse spécialiste de la Russie. On va s'intéresser justement à l'opinion russe. 93 jours de guerre, des morts par milliers, un coup de la vie renchéri. Cela fait-il douter les Russes de l'action de leur président? Nous lui poserons la question. 18h30, les dessous de l'actu et d'un exploit à 1 million de kilomètres. Mais comment peut-on pousser une voiture jusque-là? Son propriétaire nous le dira. 18h40, on va refaire nos régions avec ce soir un prof qui fait du rap avec les maths, le combat de trois éleveurs contre une antenne 4G, une recette en bord de Loire à base d'ortie, de petits pois et de champignons, et notre expatrié du jour au Chili. 19h15, ils refont la France. À vos côtés, Agnès Bonfillon, bonsoir.
Bonsoir Marion,
les
bonsoir à tous.
Les correspondants étrangers pour commenter l'actualité de l'Hexagone au programme ce soir.
Eh ben, ils nous leur demanderont entre autres ce qu'ils ont pensé de cette première semaine du gouvernement Borne plombé par le cas Damien Abad.
À tout à l'heure, tout au long de l'émission aussi, des points météo réguliers avec vous. Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Marion. Bonsoir à tous.
La tendance?
Une journée plutôt calme et majoritairement ensoleillée avec un mercure de saison compris entre 22 et 24 degrés en moyenne sur l'ensemble du pays.
On vous retrouve dans un instant.
RTL Soir.
Le journal Marion Calais, Alexandre de Saint-Aignan.
RTL, vous le révélez lundi dernier, mise en examen de Jacques Boutier, le PDG d'Assu 2000, accusé de viol sur mineurs et de traite d'êtres humains. Ce soir sur RTL, un témoignage lève le voile sur une culture d'entreprise particulièrement misogyne.
Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
C'est vous qui avez recueilli pour RTL le témoignage de cet ancien salarié d'Assu 2000. Il en dit long sur l'ambiance qui semblait régner dans les couloirs.
Oui, il se souvient des récits teintés de fierté de ses collègues qui participaient à ces week-ends d'entreprises réservées aux hommes. Il a accepté de nous raconter sous couvert d'anonymat.
C'était des week-ends avec souvent beaucoup d'alcool, voire quelquefois de la drogue, voire même de la prostitution.
Vous avez entendu parler aussi d'un week-end à Las Vegas. Qu'est-ce que vous savez de ce week-end?
Le PDG, M. Boutier, qui était présent personnellement sur ce week-end. Des prostituées étaient présentes à ce moment-là.
RTL a pu consulter des photos de ses anciens collaborateurs lors de ce voyage à Vegas où des femmes nues apparaissent. Rien de pénalement répréhensible, mais cela illustre bien, selon cet ex-collaborateur, une culture d'entreprise.
L'esprit d'entreprise, pour résumer les choses, je dirais peut-être un club d'hommes. Avec des propos souvent très déplacés sur les femmes qui se vantaient de leur conquête, de ce genre de choses.
Sollicité sur ces fameux week-ends d'entreprise, Assu 2000 n'a pas répondu précisément et nous dit simplement que tous les cas, tous les témoignages de femmes seront analysés.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
RTL Soir.
18h04 sur RTL, la politique à présent et les débuts assez timides d'Elisabeth Borne à la tête du nouveau gouvernement.
La première semaine a pourtant été ponctuée de plusieurs prises de parole de la nouvelle première ministre et dernière en date ce matin.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Elisabeth Borne a tenté de fixer le cap, hein, mais elle a bien du mal à se faire entendre.
Oui, sa principale difficulté, c'est que pour le moment, elle n'a rien de concret à annoncer en pleine période de réserve électorale. Nouvel exemple, ce matin à Matignon, tous les ministres avaient été convoqués pour une réunion de cadrage pour se montrer au travail. Mais les mots de la Première ministre restent dans le registre des bonnes intentions.
Chaque journée de ce quinquennat doit être utile. J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre, rapidité, efficacité et résultat.
Pouvoir d'achat, santé, climat érigé en priorité. Mais sur le pouvoir d'achat, par exemple, on le sait, il faudra attendre l'été après les législatives pour que soient votées de nouvelles mesures.
Bon, et cette première semaine d'Elisabeth Borne, William, elle a également été marquée par quelques moments de flottement.
Oui, le cas d'Amien Abad a occupé beaucoup de place. On a aussi vu des ministres prendre quelques libertés, comme Gérald Darmanin, qui propose de ne plus retirer de points sur le permis pour les petits excès de vitesse, mais qui n'avait pas vraiment consulté sa nouvelle chef avant de parler. Le genre de petites choses qu'elle va devoir apprendre à gérer. Elisabeth Borne, pour l'instant, fuit les questions de journalistes. Demain, elle sera dans le Calvados, sur un marché, en campagne, pour se faire élire députée. Et là, elle ne pourra pas fuir les questions des habitants et des commerçants.
Apprendre à se faire sa place. Merci, William Galibert.
Aux États-Unis, trois jours après qu'un jeune de 18 ans a massacré 19 enfants dans une école primaire au Texas, le tout-puissant lobby des armes ouvre son assemblée annuelle à seulement quelques heures de route.
Lionel Gendron, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place à Houston. La NRA a maintenu sa grand-messe. Est-ce que le sujet fait parler ?
Oui, les éléments de langage de la NRA pour qui les armes n'expliquent pas les tueries passent mal. Alors pas pour les fervents défenseurs de la circulation des armes, mais pour les Américains nombreux favorables au port d'armes mais qui veulent un meilleur contrôle. Le puissant lobby est quand même gêné par cette concordance des dates après la tuerie de Uvalde. Des élus conservateurs ont découvert qu'ils avaient mieux à faire aujourd'hui, se font porter pâle, des artistes aussi, et plusieurs manifestations vont avoir lieu à l'extérieur. Mais l'Assemblée Générale a lieu, comme en 1999, juste après la tuerie de Columbine. La NRA avait tenu son congrès, non loin du lycée, dans le Colorado. Preuve tout de même que les organisateurs se méfient des armes. Elles seront interdites dans le centre du congrès, notamment parce que Donald Trump va y prononcer un discours tout à l'heure et le Secret Service, qui assure sa protection, ne veut pas qu'il y ait une seule arme à feu dans la salle.
Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL à Houston, au Texas. Johnny Depp souhaite simplement reprendre le cours de sa vie, assure son avocate au dernier jour du procès qu'il oppose à son ex-épouse Amber Heard. Ses avocats, elles, doivent également présenter leurs conclusions. Les sept jurés et vont ensuite se retirer pour s'accorder sur un verdict dans ce procès qui passionne l'Amérique. Verdict qui sera connu aujourd'hui ou peut-être mardi prochain.
Et on y reviendra avec tous les derniers détails dans le journal de 19h. En Ukraine, les forces pro-russes revendiquent la prise d'une nouvelle localité importante.
La ville de Liman, dans le Donbass, c'est un nœud ferroviaire, un point clé pour la logistique et pour l'approvisionnement des forces de Moscou. Violetta est une habitante de Liman. Elle et ses parents ont fui la ville avant l'arrivée des Russes, mais sa famille, ses oncles et ses tantes sont encore là-bas. Elle n'a plus de nouvelles.
Il y a deux jours, les soldats russes sont venus chez eux. Ils leur ont pris leur carte SIM, donc on n'a plus de nouvelles. On sait qu'ils vivent au sous-sol, ils sont 20. Ils reçoivent l'aide alimentaire et ils font du feu pour préparer les repas parce qu'il n'y a plus de gaz, ni d'eau, ni d'électricité. L'immeuble est en partie détruit. Mon oncle et ma tante n'ont pas voulu partir en même temps que mes parents. Ils pensaient que ça irait. Et finalement, quand ils se sont décidés, eh bien, c'était déjà trop tard. Sur une vidéo, j'ai vu ma maison. Il y a un trou dans le toit et toute ma rue est détruite. Mais j'espère que je pourrai y retourner un jour. Alors pas pour y vivre, mais pour voir à quoi ça ressemble et puis pour prendre quelques affaires, par exemple des vieilles photos.
Voilà cette habitante de Liman, témoignage RTL recueilli par Sophie Jousselin.
Allez, dans un instant, on va prendre des nouvelles de Fabrice et de sa voiture qui s'approche du million de kilomètres. Hein. On vous en parle depuis ce matin sur RTL. On va voir dans un instant où il en est. A tout de suite.
RTL Soir avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais.
Et la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan à 18h10. On va suivre et continuer de suivre hein, Fabrice et sa Peugeot 307, 16 ans et en route vers le million de kilomètres.
Alors le cap n'est pas encore franchi. Hein. Imaginez, il n'y a même pas assez de chiffres sur le compteur pour afficher le million de kilomètres. Cet automobiliste très gros rouleur a décidé de retourner en pèlerinage à l'usine Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Yannick Collant.
Oui, Fabrice Gommet est arrivé à l'entrée de l'usine Sochaux avec sa 307 il y a quelques minutes seulement.
Elle est née ici. Vous savez, c'est comme la tortue qui naît sur une plage des Caraïbes, qui fait trois fois le tour de la Terre et qui revient pondre à l'endroit où elle est née. Là, c'est la même chose. La voiture connaît l'endroit. Je peux peut-être la laisser faire, peut-être faire les derniers mètres toute seule. Oh, génial ! Regardez là-bas !
Pour l'accueillir, tous les ouvriers de Sochaux qui ont construit la voiture en 2006 et qui portent une pancarte avec le chiffre 1 million.
Merci. Regardez, c'est de l'essai. Là, on est dans la chaleur humaine, on est dans quelque chose de ça. On se regarde et on se comprend. On comprend que c'est ensemble qu'on a fait ça. Eux, ils ont fait la voiture. Ah, nous, on a fait les kilomètres. Moi, je suis ému, ça me touche, quoi. Je veux dire, c'est 15 ans de ma vie. Hein. Bon, et qu'est-ce que vous avez fait de spécial sur cette voiture pour qu'à un moment donné, elle fasse autant de kilomètres? Dites-le moi, les gars.
On l'a fait avec amour.
On s'est donné corps et âme.
Avec sérieux, j'ai l'impression.
Très sérieux, oui.
Alors Fabrice avait pris une petite marge de sécurité. Il lui reste officiellement 30 km à faire autour de l'usine pour valider définitivement le million au compteur.
Voilà, il reste encore quelques tours
à faire. Quoi.
Exactement. Yannick Collant pour RTL.
Nous, on va faire quelques kilomètres pour aller du côté de la porte d'Auteuil.
RTL. Roland Garros 2022.
Avec la petite française qu'on adore suivre et qu'on a découvert cette année.
Oui, Isabelle Langer, on vous retrouve à Roland-Garros. Comment ça se passe alors pour Diane Paris?
C'est compliqué, elle a perdu la première manche 6-2 au profit de l'américaine Sloane Stephens. Vous saviez, celle qui avait été finaliste ici même en 2018, qui a 29 ans, 64e mondiale. Alors oui, elle est mieux classée que Diane Paris. Elle a plus d'armes dans sa raquette, mais on a envie de dire que c'est Diane Paris qui fait un peu le match toute seule parce qu'elle commet beaucoup trop de fautes aujourd'hui pour pouvoir, pour le moment en tous les cas, inquiéter Sloane Stephens. Pourtant, elle a le tennis. Ça joue bien, le revers est toujours aussi magnifique, mais il y a trop de fautes. Il va falloir rentrer un petit peu plus dans la balle et rentrer surtout un peu plus la balle dans le court. 43 minutes de jeu, 6-2 dans la première manche pour Sloane Stephens. Et puis je vous rappelle la qualification de Raphaël Nadal qui a battu le néerlandais Van de Zandschulp, 6-3, 6-2, 6-4. Je suis contente, j'ai réussi à le dire. Il jouera le Canadien Félix Auger-Aliassime en 16e de finale. Et puis Novak Djokovic s'est passé aussi très très facilement face au Slovène Bedene. 6-3, 6-3, 6-2. Il retrouvera l'Argentin Schwartzmann. Ça va être un bon petit test pour Djokovic sur terre battue.
Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous, Isabelle Langer à Roland-Garros pour RTL. À suivre également ce soir, il y a du rugby avec Lyon qui dispute la première finale européenne dans l'histoire du club. C'est du challenge européen face au RC Toulon. Le match a lieu à Marseille, coup d'envoi 21h.
Et on suivra ça ce soir évidemment sur RTL avant la finale aussi de La Rochelle. Pour le coup, en rugby, les clubs français sont bien présents. La Rochelle qui affrontera demain aussi à Marseille les Irlandais du Leinster. La météo, Claire Delorme, ça va donner quoi dans les prochains jours? Précisément demain, du beau temps?
Exactement, du beau temps, même une journée plutôt sympathique pour un week-end de l'Ascension, donc c'est plutôt pas mal. Le soleil sera quand même majoritaire au lever du jour, mais quand même à cela quelques bémols, surtout de la grisaille qui aura un petit peu du mal à se dissiper, que ce soit vers la Bretagne, l'intérieur de la Normandie ou encore près du Jura, du Massif central et du sud de l'Aquitaine. Mais bon, après leur dissipation lente mais sûre, eh bien le soleil prendra progressivement le relais. Ça aura quand même tendance un petit peu à s'ennuager vers les frontières belges en cours d'après-midi, début de soirée. Ça pourrait même devenir aussi menaçant avec localement une petite averse que l'on retrouvera forcément en région PACA en fin de soirée et aussi vers la montagne Corse du haut relief. Et puis donc les températures sont tout simplement de saison, comprises entre 4 et 9 degrés en matinée du nord de la Loire jusqu'au Grand Est, 9 à 14 degrés au sud, et dans l'après-midi il faudra compter une fourchette large entre 16 à 25 degrés pour la moitié nord, de 22 à 27 degrés pour la moitié sud, avec des pointes de plus de 30 degrés. Devinez où? Près de la Méditerranée
évidemment. Oui. Les Vénards. Merci Claire Delorme.
La brigade RTL Soir.
Dans la brigade RTL ce soir, le mondial de foot au Qatar. Coup d'envoi dans un peu moins de 6 mois, avec une organisation inédite qui vient d'être dévoilée. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Pendant la compétition, l'accès à l'émirat sera très réglementé. En gros, n'entrera pas qui veut.
Oui, inédit, du jamais vu pour cette Coupe du Monde. Seuls les détenteurs de billets pour la compétition pourront entrer au Qatar durant le mondial. Décision drastique prise par les autorités qataries. Tout n'est pas complètement tranché. D'ailleurs, il y a, on le sait, beaucoup de voyageurs d'affaires, notamment dans le secteur du gaz, des hydrocarbures. L'Émirat pourrait leur demander de reporter aussi leur déplacement. C'est une question assez délicate. La raison, évidemment, c'est l'affluence. Les deux aéroports internationaux internationaux à Doha vont voir doubler leur nombre de visiteurs, 200 000 personnes par jour attendues, jusqu'à 1 400 000 supporters pendant l'épreuve. La compagnie Qatar Airways a également pris des mesures assez radicales. Elle va fortement réduire, voire stopper des liaisons avec certains pays pour réaffecter ses appareils en priorité aux 31 nations qualifiées pour la Coupe du Monde.
Ouais, cette organisation, c'est aussi un vrai défi. On sait d'où vont venir majoritairement les supporters ?
Alors, ça se confirme, beaucoup viendront du Moyen-Orient, des pays limitrophes, énormément de supporters d'Arabie Saoudite. La compagnie nationale va prévoir 30 vols quotidiens aller-retour de Riyad et Jeddah. Il y a un an et demi à peine, on le rappelle, ces deux pays avaient rompu durant 4 ans leurs relations diplomatiques. Il y a eu 23 millions et demi de billets demandés à travers la planète. Seuls 3 millions de personnes assisteront à l'événement. Les pays qui ont le plus plébiscité ces tickets, l'Argentine, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil, la France également, qui est dans le top 8. Les 4 matchs les plus demandés et prisés sont les 3 rencontres de l'Argentine en phase de groupe, ainsi que le Angleterre-États-Unis. Mardi prochain a lieu le tirage au sort pour l'attribution finale des billets et il y aura beaucoup de déçus.
Et pour ceux qui auront des billets, il y a un point qui reste encore un peu incertain, c'est la question de l'hébergement.
Exactement, oui. À partir donc de mardi prochain, si vous avez vos billets, il faudra rapidement se diriger vers les plateformes pour l'hébergement et les locations. Hôtels, appartements, villas ont déjà été pris d'assaut, donc il ne faut pas tarder. Je regardais les prix tout à l'heure pour une cabine sur un bateau de croisière amarré dans le port de Doha. Ça coûte 325 € la nuit. Et le Qatar construit actuellement des villages pour les supporters en périphérie de Doha, dans le désert, avec notamment des bungalows de camping. Ça coûte quand même 200 € la nuit.
Voilà, il y a encore 6 mois pour mettre de côté. Donc, stricte et encore incertaine l'organisation de ce Mondial 2022 au Qatar. Brigade RTL, signée Nicolas Georgerot. Dans un instant, avec l'invité de RTL Soir, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la société russe. Des pertes humaines inédites sur le terrain. Un coup de la vie renchérit. Cela pousse-t-il les Russes à s'interroger sur l'action de Vladimir Poutine ? L'éclairage de la chercheuse Anna Colin-Lebedev dans un instant.
RTL Soir
avec Marion Calais. Marion Calais,
l'invité d'RTL Soir.
93 jours de guerre en Ukraine, l'est du pays, au cœur du conflit, avec chaque jour son lot de frappes meurtrières. Et si l'on parle quasi quotidiennement de l'horreur du terrain, on connaît moins, en revanche, les effets de cette guerre pour le peuple russe et sur l'opinion en Russie. Et c'est ce qu'on va tenter de percevoir ce soir avec vous, Anna Colin-Lebedev. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des sociétés post-soviétiques, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. 93 jours donc, et peut-être déjà autant de morts pour les forces russes en Ukraine qu'en 10 ans de guerre en Afghanistan. Alors ce sont des estimations, on parle de 10 à 15 000 morts côté russe. Est-ce que le rythme de ces pertes et ces soldats qui reviennent dans un cercueil ou blessés, ça fait bouger les lignes au sein de la population russe sur cette guerre ?
Effectivement, sur cette guerre, on est sur un rythme de pertes humaines absolument inédit. Hein. Les statistiques ukrainiennes, les estimations données par les Ukrainiens sont effectivement même bien supérieures aux chiffres que vous avancez. À eux, ils s'approchent des 30 000 morts désormais. Bien évidemment, ce sont des chiffres qui ne sont pas confirmés. Mais par exemple, les organisations des mères de soldats nous font savoir que l'intensité en fait des retours des corps humains, l'intensité des problèmes qui sont soulevés par les parents n'a pas grand chose à voir avec les guerres précédentes. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de dépasser en fait tous les conflits armés dans lesquels la Russie a été engagée jusqu'à maintenant. Mais non, je pense que la population ne le perçoit pas forcément.
Pourquoi elle ne le perçoit pas ? On a beaucoup dit que les soldats russes venaient de provinces éloignées des centres de pouvoir. Est-ce que c'est parce que ces gens-là n'ont pas voix au chapitre ? On ne comprend pas bien pourquoi, malgré ces pertes à peine pensables, ça ne suscite pas de réaction.
Alors déjà, parce que le ministère de la Défense russe ne donne pas de statistiques sur les pertes humaines. Les statistiques ont été données une fois, un mois après le début de la guerre. Et depuis, c'est le silence radio. radio. Et le russe ordinaire, celui qui tient ces informations, alors à la fois de la télévision, mais aussi d'un internet qui est très contrôlé finalement aujourd'hui par le pouvoir si on ne dispose pas de moyens d'accès spécifiques comme le VPN, eh bien ne va pas communiquer là-dessus. Donc je dirais que voilà, les Russes n'ont pas la possibilité, le russe ordinaire n'a pas la possibilité de comparer par exemple l'impact de la guerre soviétique en Afghanistan avec l'impact de cette guerre. Et sur le terrain, en fait, les cercueils reviennent. Et donc, autour de, voilà, dans la communauté villageoise, dans une petite ville, on va percevoir le fait qu'il s'agisse d'un conflit meurtrier, mais sans pouvoir toutefois donner une échelle. Alors, il y a bien évidemment des ONG et des journalistes qui continuent, en fait, à faire une chose qui est encore autorisée, à savoir recenser les pertes humaines. Ils vont aller sillonner les médias, les réseaux sociaux, aller d'un enterrement à un autre, essayer de faire un listing des personnes qui sont mortes au combat. Mais je dirais que voilà, la Russie est grande, ça se passe dans des endroits plutôt reculés. Effectivement, nous avons très peu de cercueils qui reviennent à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans les grandes villes. Et les Russes ne se rendent pas encore compte du coût humain énorme de cette guerre pour eux.
On avait parlé de manifestations au tout début de la guerre. Il n'y en a plus aujourd'hui, ou alors c'est juste que l'information ne vient pas jusqu'à nous?
Aujourd'hui, les manifestations prennent une autre forme. Les Russes ont interdiction, en fait, de s'opposer ouvertement à la guerre, ou disons de contester la version officielle des forces armées. Et donc, en fait, ils vont laisser des signes dans l'espace public, par exemple. Là, il y a une petite symbolique qui est le ruban vert que l'on trouve accroché et qui permet aux gens de s'exprimer sans s'exprimer publiquement en se mettant en danger. Il y a aussi des signaux, comme par exemple ces cocktails Molotov, lancé sur les commissariats militaires qui sont les bureaux de recrutement militaire. Voilà, c'est un mode de protestation également. Donc ponctuellement, en fait, on voit que les Russes essaient de trouver des voies détournées d'exprimer leur opposition à la guerre et pour certains tout simplement leur pacifisme, hein, même sans parler de leur jugement de la guerre en Ukraine. Mais la protestation, par exemple, ne peut être endossée par aucun acteur politique aujourd'hui, hein, qu'il s'agisse d'un acteur plutôt opposé au pouvoir ou proche du pouvoir, il a très peu de possibilités pour critiquer en fait la parole officielle du ministère de la Défense et de la Présidence.
Alors il y a aussi une question qu'on se pose sur les conséquences des sanctions. D'abord, concrètement, les Russes, ils ont aujourd'hui plus de mal à faire leurs courses, ça leur coûte plus cher?
Oui, en effet. Alors, il y a plusieurs effets en réalité des sanctions et on a beau en fait vouloir un effet immédiat, hein, les sanctions commencent à agir, on le voit, mais je dirais que sur la vie du russe ordinaire, l'impact est croissant et n'est pas encore à son maximum. Les prix ont augmenté considérablement, y compris le prix des denrées alimentaires. Alors, par endroit, le pouvoir politique cherche à stabiliser ces prix et à les laisser à un niveau acceptable. Ça tiendra ce que ça tiendra, ça dépendra des ressources financières du pouvoir. Même chose pour le cours du rouble, maintenu artificiellement aujourd'hui, tant que l'État russe a des réserves, mais une fois de plus, tant que l'État russe a des réserves, donc ça finira par s'épuiser. Et puis surtout, en fait, l'économie est affectée structurellement. Pour l'instant, les trains roulent, voilà, les voitures, il y a encore quelques pièces détachées disponibles en stock chez les garagistes, les gens peuvent acheter des vêtements parce qu'il y a aussi un petit peu de stock de choses qui sont importantes de l'étranger. Ils ont leurs produits habituels agroalimentaires qui sont faits sur des machines qui sont pour une grande partie, par exemple, européennes ou nord-américaines. Et bien, petit à petit, les réserves vont s'épuiser. Les machines vont tomber en panne, les remplacements des pièces ne se feront pas, la fabrication des pièces nouvelles ne se fera pas, et en fait l'économie déclinera inexorablement. Et la Russie n'a pas forcément la possibilité, dans un temps court, de remplacer en fait ce qui lui manque.
Ça va aller crescendo donc quand on comprend ce que vous dites. Alors cela dit, sur l'augmentation des prix, est-ce que les Russes attribuent déjà la responsabilité de ces sanctions? Enfin, est-ce que le poids des sanctions dans l'opinion russe, il est favorable à Vladimir Poutine ou il lui est plutôt défavorable?
Pour l'instant, les Russes attribuent, alors d'une certaine manière à juste titre, ces sanctions à l'Occident. C'est l'Occident qui est jugé responsable. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ces sanctions interviennent. Aux yeux de la population russe, et ça, c'est une vision qui est très largement partagée encore en Russie, eh bien, l'objet de ces sanctions, c'est de punir la Russie, de lui faire perdre sa place sur la scène internationale, d'en faire un paria sur la scène internationale. C'est le discours du Kremlin. Il est pour l'instant partagé par la population russe. Et pour l'instant, les sanctions le renforcent. Mais je dirais que, voilà, ça fait quelques années que on sait que les Russes reçoivent deux messages de plus en plus discordants. Le message de leur télé qui dit on devient de plus en plus fort, et le message de leur frigo qui leur dit je deviens de plus en plus vide. Et à un moment donné, je dirais, l'adhésion de la population au pouvoir peut basculer ou pas. Ça dépendra de la capacité du pouvoir, en fait, à faire croire à son message et à mobiliser les Russes dans une guerre qui doit être une guerre, en fait, d'une assez grande ampleur pour que les Russes pensent ces sacrifices justifiés.
Et justement, sur le discours du pouvoir ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a prévenu, je cite, que la guerre totale de l'Occident contre la Russie allait durer longtemps. Il parle aussi de russophobie. En fait, ce que le pouvoir russe est en train de réinstaurer, c'est une forme de guerre des blocs.
De manière générale, le pouvoir russe avance depuis des années déjà cette idée que tous les conflits dans son voisinage, en fait, sont des conflits fomentés par l'Occident, dont l'objectif est de détruire la Russie. Donc je dirais que la guerre des blocs, elle est là. Elle est là depuis très longtemps dans l'imaginaire des Russes. Pendant un long moment, ça a été une guerre froide ou modérément froide. Ce qui est inquiétant, en fait, actuellement, c'est que je dirais que puisque les sacrifices consentis par les Russes deviennent de plus en plus importants, puisque le coût humain devient de plus en plus important, eh bien, de l'autre côté, la Russie a besoin de preuves que l'Occident est effectivement son ennemi vindicatif, etc. Donc, pour l'instant, ça se passe au niveau des discours, et pour les Russes, en fait, le responsable de cette guerre en Ukraine, ce sont avant tout les Occidentaux.
Et dans cette guerre larvée que Moscou installe aussi, il y a un élément que la Russie a brandi à plusieurs rangs prise ces derniers jours, c'est le blé. Par exemple, la Russie se disait prête à aider les pays pauvres à surmonter la crise alimentaire si les sanctions étaient levées. Il y a là une forme de chantage. Est-ce que l'objectif de Moscou, c'est vraiment d'obtenir une levée des sanctions ou c'est de dénoncer l'intransigeance de l'Occident?
Je pense que l'objectif de la Russie, c'est de changer le rapport de force. Et si la Russie arrive à faire croire à des pays qui sont dépendants du blé ukrainien que la responsabilité repose sur l'Occident, que les méchants, c'est l'Occident, en fait, qui est responsable d'une éventuelle famine à venir dans ces pays, eh bien, il aura gagné de nouvelles adhésions. C'est plus une histoire de lecture du déséquilibre du monde et d'une lecture de responsabilité qu'une histoire liée aux sanctions. En réalité, vous voyez, pour ce qui est du Kremlin à proprement parler, et je ne dirais pas ça de tous les Russes puissants, en fait, autour du Kremlin, pour le Kremlin, les sanctions sont un donné et ils essaient d'instrumentaliser les sanctions pour augmenter la mobilisation de la population.
Voilà, l'instrumentalisation aussi de ces sanctions et de cette guerre en Ukraine. Un grand merci, Anna Colin-Lebedev, de nous avoir aidé à percevoir un peu ce soir comment cette guerre infusée aussi au sein de la population russe et de la société russe. Je rappelle que vous êtes spécialiste des sociétés post-soviétiques. Merci d'avoir été avec nous dans RTL Soir. Bonne soirée.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Dans un instant, les dessous de l'actu, les dessous de l'exploit, à 1 million de kilomètres. Comment on vous conserve sa voiture aussi longtemps? Et puis de la musique dans Laissez-vous tenter dernière dans la famille Chédid. Ce soir, je demande Joseph. À tout de suite.
RTL Soir avec Marion Calais.
RTL 18h32.
RTL Soir, Marion Calais.
Et on vous retrouve, Alexandre de Saint-Aignan, pour les grands titres de l'actu ce soir.
Pouvoir d'achat, santé, climat. Elisabeth Borne fixe les trois priorités du gouvernement. Les premières semaines de notre action doivent être consacrées à répondre aux urgences des Français, plaide la nouvelle première ministre. Johnny Depp veut reprendre le cours de sa vie, assure son avocate face à Amber Heard. Dernière plaidoirie pour la fin de ce procès qui passionne le monde entier. Le verdict est attendu dans la soirée ou peut-être mardi prochain. Le tennis à Roland-Garros, Isabelle Langer, c'est compliqué pour la Française.
française Diane Paris.
Oui, 1h04 de jeu, 6-2, 4 jeux à 1 en faveur de Sloane Stephens, l'américaine. Il faut dire que Diane Paris commet beaucoup trop de fautes, 25 déjà depuis le début de la rencontre. Surtout, elle n'a gagné que 31% des points sur sa première balle de service. C'est trop peu à ce stade de la compétition pour espérer aller plus loin dans ce Roland-Garros. Ça va être compliqué maintenant. Hein. 6-2, 4 jeux à 1, mais, comme on dit, hein, après, là, ce sera gagné pour Stephens, quand la dernière balle aura rebondi.
Et bon, on verra ça. Merci Roland Garros sur RTL. C'est avec Isabelle Langer.
Le temps à présent, Claire Delorme, week-end calme. Hein.
Plutôt calme et même plutôt ensoleillé. C'est assez agréable pour un week-end de l'Ascension. Donc on va quand même retrouver en matinée un petit peu de brumes et brouillards qui auront tendance à s'accrocher vers la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, mais aussi Massif Central, Jura, Pays Basque. Mais bon, après leur dissipation, c'est vraiment le soleil qui l'emporte. Bon, de l'évolution d'une classique en fin de journée pour la région PACA, avec des températures donc de saison, même un petit peu frais quand même près de la Manche, 16 degrés, mais une chaleur tempérée dans le sud, près de la Méditerranée, jusqu'à 33 degrés.
Merci Claire.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu, les dessous d'un exploit. On vous a parlé dans le journal de 18h de cet automobiliste qui est en ce moment en train d'amener sa voiture au millionième kilomètre. Cet automobiliste, il est en ligne avec nous. Bonsoir Fabrice Gomet.
Bonsoir Marion.
Toujours dans votre véhicule, une 307 en l'occurrence. Elle a quel âge précisément ?
Alors, c'est une voiture qui date de 2006. Elle a 16 ans et moi je l'ai eue en 2017. Ça fait 15 ans que je l'ai.
Dans ces dessous, je voulais que vous nous racontiez un peu comment on fait pour faire durer une voiture 1 million de kilomètres. Comment vous avez fait depuis que vous avez récupéré ce véhicule pour pouvoir continuer à l'utiliser aussi longtemps ?
Alors, trois choses importantes à mes yeux. Avoir beaucoup de chance et avoir fait confiance à une voiture qui a été bien montée par les gens de Peugeot. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est avoir un très très bon garagiste, un très très bon mécano qui tout du long m'a accompagné pour pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Et puis après, on a essayé de faire un peu comme dans l'industrie, on a les actions correctives quand il y a quelque chose qui est cassé, mais on essaye de trouver les actions curatives. Alors c'est un peu un gros mot, mais ça veut dire tout simplement que à partir du moment où on a vu qu'il y avait quelque chose qui était fragile à un endroit, et ben on essaye de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. Voilà.
Voilà donc pour vos conseils, Fabrice. Mais ça veut dire que vous avez suivi toujours le même garagiste et que vous faites des entretiens réguliers. Si on veut pousser sa voiture, on va régulièrement voir le garagiste pour s'assurer que ça va bien.
Exactement. Vous avez parfaitement raison, Marion. On change pas de garagiste parce que c'est le même mécano qui s'occupe tout le temps. D'un seul coup, il prend la responsabilité des choses. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, pour chaque petite chose, on a un entretien qui est scrupuleux. C'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude, je sais de quoi je parle, il y a des moments où c'est plus difficile financièrement, et on saute une vidange, vous savez. Eh ben ça, non, faut pas le faire. Quoi qu'il arrive, faut changer les filtres. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel.
Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. On a bien retenu la leçon, donc surtout la vidange. Quoi qu'il arrive, on ne la saute pas, on ne rate pas un rendez-vous. Très bonne route à vous, alors j'ai envie de vous dire pour la suite.
Au revoir.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h36.
Laissez-vous tenter, dernière.
Avec vous, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
On termine la semaine en musique et on va aujourd'hui s'intéresser à la famille Chedid.
Oui, mais alors pas Mathieu Chedid, alias M. Non, ce soir on s'intéresse à Joseph, le deuxième fils, troisième enfant de la fratrie.
Souffle, souffle, souffle. Tu me donnes tout ton amour, sans rien attendre en retour, ça me rassure. Les choses humaines, quand je sens fort la chaleur, qu'il n'y a plus de barrière entre nous, c'est extraordinaire.
Joseph Chedid, c'est l'électron libre de la famille Chedid. Il compose, il écrit, il chante bien sûr, il joue de plein d'instruments. Ah oui, et puis aussi il réalise, il peint. D'ailleurs, certaines de ses toiles deviennent les pochettes de ses disques, et c'est d'ailleurs le cas ici. Et tout ça avec la fougue et le talent familial qu'on connaît bien. C'est fou cette famille, non ? Ouais.
Appelle la chance. Appelle
J'ai fait une liste de tous mes désirs, de toutes mes tailles, de grandeur de rêve.
Joseph Chedid a sorti son nouveau mini-album vendredi dernier, Souffle. Tout ce qu'il fait, il le fait sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Il a gardé un côté enfant, quelque chose de fougueux et spontané. Et c'est pas demain la veille qu'on lui mettra le grappin dessus pour le faire rentrer dans des clous. Et c'est tant mieux. Allez, montez le son, c'est l'heure de la boum sur RTL.
La boum avec la famille Chedid qui sait effectivement, décidément, tout faire. Merci beaucoup, Julia Molko.
Perdu dans le brouillard, que je perds ma confiance, que je serre le ventre quand je n'ai plus d'espoir. Tout devient dérisoire, bloqué dans ma démence, que je cherche.
Allez, on a monté le son. On va se retrouver dans un instant pour refaire nos régions avec Alexandre de Saint-Aignan, avec un prof qui fait rimer rap. Et Matt avec un éleveur mobilisé contre une antenne relais, avec des orties aussi dans l'assiette et avec un champenois au Chili. A tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.